RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, ces auditeurs et ces auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie encourage l'utilisation de la science pour atteindre les ODD. L'UNESCO discute de l'utilisation de la science et de la technologie pour atteindre les ODD. La norme de calcul du taux de pauvreté du BPS est supérieure à la norme de la Banque mondiale. Les Asiatiques ont des effets positifs sur l'économie indonésienne. Et enfin, PT Inka, opérateur de train pour la route Dakar-Bamako. Voici le journal complet. Le chef de la direction de la Commission nationale indonésienne pour l'UNESCO, du ministère de l'Éducation et de la Culture, Arif Rahman, a encouragé l'UNESCO à accroître la contribution à utiliser la science et la technologie pour surmonter les défis, y compris les objectifs de développement durable ou ODD. Selon Arif Rahman, l'Indonésie en tant que pays archipelagique a des défis dans la lutte contre les changements climatiques. En outre, la migration, l'égalité et la quatrième révolution industrielle sont aussi devenus un défi commun dans la région Asie-Pacifique. Cela a été déclaré à la réunion de coordination stratégique régionale Asie-Pacifique de l'UNESCO à Jakarta lundi. Arif Rahman a dit que l'UNESCO, en tant qu'institution des Nations Unies chargée de la science, devrait être en mesure de contribuer à faire face à ces défis, notamment par des politiques qui pouvaient encourager les efforts à surmonter les défis des objectifs de développement durable.
Kita kan sekarang mempunyai beberapa masalah.
Nous avons maintenant quelques problèmes qui ont à voir avec l'Indonésie. Par exemple, le changement climatique. C'est très important. L'urbanisation, la migration des villages vers les villes, il y a encore la pauvreté. L'existence des différences, l'inégalité entre ceux qui sont intelligents et les moins intelligents, les riches et les non-riches. Ceux qui vivent dans la ville et ceux dans le village. Pour cela, nous devons voir la contribution de la science à ces problèmes. Le plus important, l'UNESCO ne pense pas seulement à la science, mais pour quel est ce développement durable, quelle est sa contribution. Je pense que la contribution la plus importante est les politiques. En plus de pousser à travers les politiques, l'UNESCO pourrait également jouer un rôle dans le renforcement de la capacité scientifique et technologique des pays membres. L'UNESCO, selon Arif, peut également contribuer à la promotion de l'utilisation durable des écosystèmes, en particulier à travers la gestion des forêts et la biodiversité. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, a organisé la réunion de coordination stratégique régionale Asie-Pacifique à Jakarta du 30 au 31 juillet. Le représentant de l'UNESCO à Jakarta, Shahbaz Khan, a déclaré que la réunion discutait des mesures qui peuvent être faites pour utiliser la science et la technologie afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Shahbaz Khan a également déclaré que la réunion visait à positionner les programmes scientifiques de l'UNESCO en Asie-Pacifique comme une plateforme efficace pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable.
We have here 17 countries from Asia-Pacific.
Ici, 17 pays d'Asie-Pacifique viennent pour discuter de la façon dont la science et la technologie peuvent nous aider à atteindre un meilleur développement durable. Surtout pour réaliser 17 objectifs de développement durable, comme par exemple l'eau, la sécurité de l'eau, comment nous pouvons éliminer la pauvreté, comment nous pouvons avoir une meilleure santé, comment nous pouvons avoir un système transparent avec des meilleures données et technologies. C'est l'idée. Selon Shahbaz Khan, la région Asie-Pacifique joue un rôle important pour assurer que les objectifs de développement durable peuvent être atteints. Avec la présence de 60% de la population mondiale, la région Asie-Pacifique a un grand potentiel dans le développement d'une forme de coopération entre les pays. Cette zone est également un niveau de vulnérabilité assez élevé, entre autres les catastrophes naturelles et l'égalité. Selon lui, ces problèmes peuvent être résolus en utilisant la science et la technologie. La norme du calcul de pauvreté menée par le gouvernement indonésien par l'intermédiaire du Bureau central des statistiques, ou BPS, est encore plus élevée que la norme établie par la Banque mondiale. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Planification du Développement National de la République d'Indonésie, Bambang Brojonegoro, dans le 9e Forum Merdeka Barat, intitulé « L'effet sur la réduction de la pauvreté à Jakarta » lundi. Bambang a indiqué que les calculs de taux de pauvreté effectués par BPS utilisent des unités de référence par habitant et utilise des normes différentes pour les zones rurales et urbaines.
Itu sudah di atas standar yang biasa ditentukan World Bank, yaitu 2 dolar per hari. Ini adalah 2,5 dolar per hari.
Il a été standard qui est généralement déterminé par la Banque mondiale, à savoir 2 dollars américains par jour. Il est de 2,5 dollars américains par jour. Et nous devons également voir en fonction des zones rurales et urbaines, c'est par habitant par mois. La plupart des gens vivent en famille. La famille a moyennement 2 ou 3 enfants. S'il y en a 400, il faut multiplier 5. Cela signifie 2 millions de rupiahs par mois. Si à Jakarta jusqu'à 3,1 millions par mois, le point est il a été en conformité avec la norme qui a été déterminée au niveau international. Bambang a expliqué, jusqu'à présent, le BPS a calculé le taux de pauvreté des groupes alimentaires et non alimentaires, n'est pas basé sur le taux de 100 de dollars américains par rapport à rupiah qui s'élève actuellement à 14 400 rupiah par 1 dollar américain. Mais utiliser les dollars américains de pouvoir d'achat pauvreté ou triple P. Le taux de conversion en dollars américains de PPA et le montant de rupiah dépensé pour acheter la même quantité de biens équivalent à 1 dollar américain. Comme on le sait, BPS cette année a annoncé que le taux de pauvreté de l'Indonésie est de 9,82%. BPS a noté le nombre d'Indonésiens pauvres en mars 2018 était de 25,95 millions de personnes. Ce nombre a diminué comparé à septembre 2017, soit 26,58 millions de personnes, soit 10,12%. En tant qu'hôte des Jeux Asiatiques 2018, qui se tiendront à Jakarta et à Palembang du 18 août au 2 septembre 2018, l'Indonésie est prête à donner la meilleure performance pour la compétition et à assurer que les 40 catégories sportives en compétition réussiront. Environ 45 pays envoient plus de 11 000 athlètes et 5 000 officiels pour représenter leur pays dans le plus grand événement sportif en Asie. Le ministre indonésien de la Planification du Développement National en tant que chef de la planification du développement national lors du 9e Forum Merdeka Barat à Jakarta dimanche a déclaré que les normes organisation des Jeux Asiatiques 2018 aurait des effets positifs sur l'économie indonésienne. Ces impacts positifs comprennent la création d'opportunités d'emploi et l'augmentation du revenu des citoyens.
Kegiatan ekonomi itu akan menciptakan lapangan kerja, akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Les activités économiques créeront des possibilités d'emploi, de la croissance économique et augmenteront le revenu des citoyens. L'expansion des possibilités d'emploi sera soutenue par la mise en place de certaines infrastructures, par exemple la construction de LRT, la rénovation de Jakabiring et la construction supplémentaire de Bowling Hall. La construction de ces infrastructures absorberont de nombreux travailleurs. La mise en place de ces projets influera également sur la croissance économique. L'économie de Jakarta s'est développée grâce à la contribution du vice-gouverneur Sandiaga Uno. La construction de LRT à Pulomas et Rawamangun permettra d'étendre l'économie de Jakarta. En outre, cela améliorera le revenu des citoyens. En outre, les Jeux asiatiques de 2018 peuvent donner une production supplémentaire à l'économie de Jakarta au cours de la période 2015-2019 d'environ 40,8 trillion. La production supplémentaire provient de diverses sources telles que les activités de construction, la préparation des installations, les activités opérationnelles et les visites de touristes nationaux et étrangers. On estime également que les Jeux asiatiques stimuleront le produit intérieur brut régional RIL de Jakarta de 14 trillion rupiah pendant la période 2015-2019. Pendant ce temps, pour la croissance économique de Sumatra du Sud, les Jeux asiatiques devraient augmenter le produit intérieur brut régional RIL de Sumatra du Sud à 4,2 trillion rupiah. Les Jeux asiatiques de 2018 pourraient également accroître l'économie de Sumatra Sud au cours de la période 2015-2019. La croissance économique est acquise à partir de diverses sources telles que les activités de construction, la préparation des installations, les activités opérationnelles ainsi que les visites des touristes nationaux et étrangers. PT Industrie Kereta Api INKA sera l'opérateur ferroviaire de la ligne Dakar-Bamako au Sénégal, après un accord du projet du Sénégal d'ACT 10 locomotives diesel électriques qui ont été atteintes par l'Indonésie dans le Forum Indo-Afrique 2018. Les communiqués de presse de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, que Super Antara à Jakarta dimanche, a affirmé que le président directeur de PT INKA, Budi Noviantoro, avait visité Dakar au Sénégal du 22 au 24 juillet dans le cadre de l'achèvement du projet de l'achat de 10 locomotives. Les délégués de PT INKA avec l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal, Mansour Pangeran, ont rencontré le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et de la Zone d'Ouverture du Sénégal, Abdoulaye Diallo Daouda, et le ministre chargé du Développement du Réseau National des Chemins de Fer du Sénégal, Abdou Ndene Sall. En outre, AD Trade Belgium, en tant que partie qui financera l'achat de locomotives, a également participé à la réunion. L'ambassadeur Mansour Pangeran a déclaré que l'acquisition de la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako est une priorité de la politique nationale très urgente du Sénégal. Ce retard, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous La Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et en pour le titre « Changer le défi de la guerre de commerce des États-Unis-Chine à l'opportunité ». Changer le défi en opportunité, est-ce que le gouvernement indonésien devrait faire pour faire face à une guerre commerciale entre les deux géants économiques mondiaux, les États-Unis et la Chine? La guerre commerciale accrue déclenchée par l'imposition de droits d'importation sur certains biens par les deux pays a affaibli la demande de produits de chaque côté. En réponse à cette situation, le gouvernement indonésien devrait être en mesure d'utiliser la guerre commerciale avec diverses stratégies qui peuvent augmenter les exportations à la fois aux États-Unis et en Chine. Le ministère indonésien du commerce dispose les stratégies à court terme, 6 mois, à moyen terme, 18 mois et à long terme, 3 ans pour y faire face. La mesure à court terme est les approches bilatérales avec les États-Unis et la Chine. À court terme, l'Indonésie demandera l'extension du programme du système généralisé de préférence au GSP ou l'exemption des droits d'importation 0% sur l'importation de certaines marchandises en provenance des pays en développement vers les États-Unis. Lié à la possibilité de combler les cartes commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'Indonésie a le potentiel de remplir les produits importés de la Chine qui sont bloqués par les États-Unis, comme les fruits, l'acier et l'aluminium. L'Indonésie est également susceptible de remplir les produits importés des États-Unis interdits par la Chine, tels que l'acier et l'aluminium. Avec la Chine, par exemple, l'Indonésie peut profiter de l'accord commercial ASEAN plus Chine. Près de 95% des produits fabriqués en Indonésie peuvent être commercialisés aux États-Unis. Donc, s'il y a une pénurie d'approvisionnement, l'Indonésie peut le combler. L'affaiblissement actuel de rupiah devrait rendre la compétitivité plus forte des produits d'exportation indonésiens au lieu de faire augmenter les coûts d'importation. Ainsi, il est nécessaire de contrôler les importations, en particulier les biens de consommation. L'importation doit être calculée en fonction des besoins et planifiée afin de répondre adéquatement aux besoins. À moyen terme, le ministère indonésien du commerce encouragera l'utilisation d'accords tarifaires préférentiels et la réduction des droits de douane sur les matières premières et les biens d'équipement. Quand au long terme, il y aura la diversification des exportations vers les pays non traditionnels. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui est essentiellement sur la bonne voie, surtout face aux guerres commerciales qui se poursuivent entre les États-Unis et la Chine. Il est prévu que la stratégie sera en mesure de transformer le défi une opportunité pour la croissance économique de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 31 juillet 1914, l'Institut Aceh a été créé dans la tentative coloniale néerlandaise pour conquérir Aceh. L'Institut Aceh a été construit le 31 juillet 1914 à l'initiative du professeur Dr. Christian Snoghorgronje, qui a ensuite été créé par le décret numéro 61 du gouvernement colonial néerlandais. Les écrits sur Aceh écrits par les experts orientaux, des écrivains hollandais et occidentaux qui avaient fait la recherche à Aceh ont tous été rassemblés à l'Institut Aceh. La sincérité du gouvernement colonial néerlandais dans l'exploration et la recherche des caractéristiques et de la culture d'Aceh se reflète dans la création de l'Institut Aceh. En fait, Christian Snoghorgronje a été envoyé à la Mecque pour explorer l'islam afin de s'intégrer plus facilement dans la communauté Aceh dans leur recherche. Il a finalement été invité à diriger l'Institut Aceh. Le 31 juillet 1963, la signature de l'accord de Mani par la Fédération Malaise, la République des Philippines et la République de l'Indonésie. L'accord de Mani est un accord dérivé de l'initiative du président des Philippines, Diosdado Masapagal. L'accord a été fait après Chautik sur le statut de Kalimantan du Nord après la Seconde Guerre mondiale entre l'Indonésie et la Malaisie. La réunion des trois pays s'est tenue du 7 au 11 juin 1963 à Mani. Cet état parti ont accepté les vœux du peuple de Sabah, nord de Bornéo et du Sarawak, conformément au contexte de l'annexe à l'Assemblée générale des Nations unies. Se référant à la décision de l'ONU, les trois pays offrent une opportunité en considérant la tenue d'élections au Sabah et au Sarawak à travers une élection libre et aucune coercition pour déterminer le statut de leur citoyenneté. Le 31 juillet 1985, le gouvernement de l'Indonésie a établi MMTC. Le Centre de formation multimédia ou MMTC est un établissement d'enseignement et de formation dans le domaine des multimédias et de la radiodiffusion appartenant au gouvernement indonésien, créé le 31 juillet 1985 à Yogyakarta, Java Central. L'idée de créer l'institution éducative a commencé depuis le lancement du satellite Palapa en 1976. Cela a été un effet positif sur le développement des technologies de l'information et de la communication en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Par conséquent, le gouvernement de l'Indonésie s'est engagé à préparer les ressources humaines à entrer dans l'ère des satellites. MMTC a été construit avec l'assistance du gouvernement du Japon sous la forme d'une coopération technique par l'intermédiaire de l'Agence japonaise de coopération internationale ou JICA. L'assistance est sous la forme d'installations physiques, de bâtiments, d'équipements et de développement de ressources humaines. Les étudiants qui fréquentent l'éducation ne viennent pas seulement de l'Indonésie, mais aussi des États membres de l'ASEAN et d'autres pays en développement dans le monde. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
« Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « Pancasila et le point de rencontre comme la philosophie de NKRI ». Pancasila est un point de rencontre ou Kalimantan Sawa qui sert de philosophie de l'État unitaire de la République d'Indonésie ou NKRI. Comme révélé le vice-président de l'Assemblée consultative populaire de la République d'Indonésie, M. Ahmad Basara, au Parlement Jakarta, 27 juillet, à 455 étudiants de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université Galuh, Basara a révélé que Pancasila était l'héritage de fondateurs de la nation et comme idéologie de la nation, Pancasila n'est pas une idéologie religieuse particulière, ni idéologie vue avec des valeurs religieuses et divines. À cette occasion, Ahmad Basara a exprimé sa préoccupation avec le renforcement des idéaux ayant le grand potentiel de diviser l'unité de la nation. Ahmad Basara invite tous les étudiants de l'Université Galuh à maintenir et à prendre soin de Pancasila. Un maintenant et un soignant Pancasila signifie la même chose que maintenir de l'unité de l'Indonésie. Cependant, le président du Conseil culturel de la ville Yogyakarta, M. Ahmad Haris Zubair, à Bantul, 27 juillet, cité par krjogja.com, Pancasila contient en réalité deux valeurs très universelles, à savoir la divinité et l'humanité. Pancasila a été testé dans la vie de la nation, de la société et de l'État. De plus, le peuple indonésien vit au milieu d'une vie pluraliste. Prouver que Pancasila peut unir la communauté pour construire la nation vers la prospérité. Selon Haris, dans la vie de la nation et de l'État, Pancasila inclut la valeur du nationalisme dans le troisième principe et la démocratie dans le quatrième principe. Ces valeurs sont importantes à appliquer dans la vie de tous les jours afin de ne pas s'arrêter à la routine ou au slogan. Dans le même événement, le chef du Centre d'études de Pancasila de l'Université Gadjah Mada, Dr. Heri Santoso, a révélé que Pancasila était aussi la base humaine pour l'introspection. Selon lui, les gens chassent souvent l'ego personnel sans prêter attention aux autres. Et ce n'est pas contrôlé, ce sera une source de problèmes à l'avenir. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email. VOIQuiz 2018 @voinews.id. Je répète, voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Naik kekalahan sebagai kemenangan.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Ces auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en traduisant le parc touristique éducatif et agricole. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Bengkulu, l'une des provinces à l'île Sumatra, est identique de la fleur Rafflesia arnoldi. Cette province est l'habitat de plus grandes fleurs au monde. En outre, Bengkulu est également plus connu parce que l'un des pères fondateurs de l'Indonésie, Sukarno, s'est exilé et s'est marié ici. Maintenant, la maison d'exil de Sukarno est devenue l'une des attractions historiques incontournables de Bengkulu. En plus des visites historiques, une variété d'activités touristiques intéressantes peut également profiter à Bengkulu. L'un d'entre eux est une visite éducative, à savoir le parc touristique éducatif et agricole à Bengkulu du Sud. Les touristes peuvent acquérir la science de l'agriculture moderne, les femmes apprendre à être des agriculteurs en semencer, récolter des fruits, le jardinage de fleurs, la recherche, l'introduction du transport et la technologie agricole. Voyager au parc touristique éducatif et agricole n'est pas difficile. Cette attraction touristique peut être atteinte de la ville Bengkulu environ 2,5 heures par le transport terrestre. Pour entrer dans cette zone, vous devez marcher. Votre fatigue sera vengée avec une vue sur les plates-bandes qui fleurissent à gauche et à droite de la route. Vous serez également accueilli avec une variété d'arbres fruitiers tels que le mangoustan, le durian, le jacquier, le rambutan, la mangue de graines de qualité. En chemin, il y a aussi des plantes de cacahuètes. Dans certaines parties de l'entrée, il y a aussi un endroit spécial pour les bovins et les chèvres. Pas loin de la marche, vous serez accueilli avec une porte remplie de plantes de fruits à la citrouille. Passé la porte de fruits de la citrouille, il y a un troncon de plants de manioc, des légumes qui sont prêts à être accueillis par les visiteurs. Si vous avez soif et faim, vous pouvez acheter des boissons gazeuses et de l'eau minérale ici. Dans cette zone, il y a aussi une mosquée de taille moyenne qui est située sur la colline. Du haut de cette colline, de beaux paysages naturels s'étendent, étendus de tournesols, rizières, maïs et autres. Vous pouvez également apprendre à planter ou récolter des fruits. Ce parc touristique éducatif et agricole a une superficie d'environ 16,5 hectares. 6,5 hectares sont en centre semencier. 10 autres hectares sont des terres critiques non cultivées, mais grâce aux approches technologiques et aux compétences d'experts, les sols critiques se sont transformés en un sol fertile et plein de plantes. Dans ce parc, il y a 50 variétés de plantes sous forme de fruits, cultures dérobées, horticulture, de riz et de fruits. Pour les touristes qui veulent participer à la récolte ou à la cueillette de fruits ou de légumes dans cette zone touristique, les résultats de passage seront pesés et payés aux agents du parc. Les visiteurs peuvent entrer dans le parc gratuitement. Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Olé Olé ou en langue française, souvenir. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation ayant pour titre « Olé Olé » ou en langue française « Souvenir ».
Aku ingin beli olé-olé untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony. Tapi selendang.
Oh, selendang.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir olé olé ou en langue française, souvenir. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Olé olé. Souvenir. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. Je veux acheter un souvenir pour ma mère. Mungkin scarf. Peut-être une écharpe. Apa bahasa Indonesianya scarf? Quelle est l'écharpe en langue indonésienne? Selendang. Selendang. Bukan selendang, tapi selendang. Pas selendang, mais selendang. Dans le dialogue, vous attendez le mot olé olé. Souvenir. Ce n'est pas un mot répété, mais un mot de base. En indonésien, il y a plusieurs mots comme olé olé, olé olé, en français, souvenir. Laba laba, laba laba, en français, araignée. Coupou coupou, coupou coupou, en français, papillon. Ubur ubur, ubur ubur, en français, méduse. Lumba lumba, lumba lumba, en français, deux pains. Laki laki, laki laki, en français, homme. Exemple d'utilisation, aku ingin membeli oleh oleh. En français, je veux acheter un souvenir. Ada là-bas, là-bas, di dinding. En français, il y a une araignée sur le mur. Aku punya kakak laki-laki. en français, j'ai un frère. Pour créer le pluriel de ce mot, ajoutez le numéro devant le mot. Exemple, aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. Je veux acheter quelques souvenirs. Ada banyak laba-laba di dinding. Ada banyak laba-laba di dinding. Il y a beaucoup d'araignées sur les murs. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Tous les hommes à mon bureau sont mariés. Quand il y a des amis qui vont sortir de la ville pour un voyage ou un travail, les Indonésiens demandent parfois prendre des souvenirs en disant jangan lupa oleh-olehnya. Jangan lupa oleh-olehnya. N'oublie pas les souvenirs. En fait, la demande est parfois seulement une phrase simple et ne veut pas vraiment prendre les souvenirs. Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Après avoir écouté la conversation ayant pour titre « Olé Olé » ou en langue française « Souvenir », nous vous donnerons une partie qui est bien sûr liée aux mots existants après. Cette exercice consiste à décrire votre travail en mentionnant votre nom, profession, lieu de travail, votre temps de travail, à savoir jour, heure de travail et pause. Nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Ces amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir que... Cette rubrique sera utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un cadeau sous la forme d'un colis attrayant pour leur gagnant. La gagnante sera annoncée en novembre 2018. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Quiz international de la voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profitez de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers amis de quatre coins du monde, bonsoir et comment allez-vous? Nous espérons que vous êtes en bonne santé. Vous écoutez notre programme musical de la Voix de l'Indonésie, l'émission en langue française. Dans cette édition, nous allons vous présenter une chanteuse qui s'appelle Iyet Bustami. Une femme née à Bengkalis, Riau, le 24 août 1974, était connue comme une chanteuse des chansons de dangdut et malais. Sur on écoute la première chanson d'Iyet Bustami, intitulée « Selayang Pandang ». Bonne écoute.
Hatiku pula semakin bimbang, layang.
Sakrita puna de kota Sangsong Malaysia diet Bustami ang titule Selayang Pandang. Se Sangsong ate komposi par Lili Suhairi e ete très populaire dans les années 1950. Bien que ce Sangsong soit incluse de vieilles Sangsong, elle est encore connue jusqu'à présent. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantaient des chansons Selayang Pandang, y compris Iyet Bustami. La chanson Selayang Pandang d'Iyet Bustami a été popularisée en mai 1994 dans l'album pop malais Karang Suasang. Bon, serviteur, voici donc la chanson suivante d'Iyet Bustami, intitulée Sri Mersing. Bonne écoute.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.